Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïk FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission mensuelle de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, comme chaque mois, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et depuis le nombre d'années que je travaille sur les musiques juives, je suis toujours émerveillé qu'il y ait autant de choses à dire et de sujets à traiter. Donc c'est une richesse immense, c'est un patrimoine qu'il nous faut préserver, bien sûr, et faire découvrir. Et la découverte, ce soir, est encore le maître mot de cette émission, puisque nous allons, j'en suis certain, pour la plupart d'entre vous, découvrir ensemble l'œuvre de deux compositeurs tombés aujourd'hui dans l'oubli, deux compositeurs français du 19e siècle, Émile Jonas et Jules Erlanger. Alors, on les connaît peu, bien que leur musique résonne encore parfois dans certaines synagogues de France et d'Europe. Juste un mot sur chacun d'entre eux. Émile Jonas, aussi bien qu'Émile Erlanger, ont été des contemporains de Jacques Offenbach, dont nous avons parlé le mois dernier. Jules Erlanger a écrit plusieurs opéras, plusieurs œuvres lyriques pour le théâtre des Bouffes parisiens, avant de se tourner vers la musique synagogale, comme Émile Jonas d'ailleurs. Et donc, pour nous aider à découvrir un peu cette histoire particulière au sein de cette opéra bouffe et qui mélange les musiques synagogales, les musiques de l'opéra, et on verra qu'il y a des liens très forts entre elles, j'ai le plaisir d'accueillir cette fois-ci encore dans ce studio Jacobo Kaufmann, metteur en scène, écrivain et chercheur qui était venu nous parler précédemment d'Isaac et Jacques Offenbach, son sujet, son dada comme on dit en français. Jacobo Kaufmann, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis ravi de vous retrouver.
Moi aussi.
Alors, pour les auditeurs qui n'avaient pas écouté notre émission précédente, je voudrais juste leur rappeler que vous êtes né en Argentine, on l'entend à votre accent absolument charmant, que vous avez effectué une carrière internationale comme metteur en scène et d'opéra, vous avez été scénographe, dramaturge, enfin, vous avez fait énormément de choses, puis vous êtes installé en Israël, donc en 1972, si j'ai bonne mémoire.
Oui.
Vous avez effectué des recherches approfondies sur la vie et l'œuvre de Jacques Isaac Offenbach. 7 ans, vous avez dit, et 7 ans, c'est tout un symbole, c'est le chiffre 7, auquel donc vous avez consacré donc 2 livres, Isaac Offenbach and his son Jack, et ainsi que Jacques Offenbach in Spain, Italy and Portugal, traduit en plusieurs langues. Et ce soir, vous êtes notre invité parce que vous êtes l'un des rares chercheurs à avoir publié un article en espagnol et en français consacré à Émile Jonas. Émile Jonas, qu'on avait complètement oublié. Et pour ceux qui s'intéressent à ce compositeur, suite à cette émission, je vous recommande d'aller sur le site de l'Institut européen des musiques juives où vous pourrez retrouver la traduction française de l'article écrit par Jacobo Kaufmann sur Émile Jonas. Alors, avant de rentrer, comme c'est souvent la coutume, dans le vif du sujet et de parler d'Émile Jonas, je vous propose d'abord d'écouter une de ses musiques, une prière, donc d'Émile Jonas. Il s'agit du psaume 29, Mizmor le David Abul Adonai, chanté à Pessar durant le port de la Torah. Et c'est une interprétation ici du rabbin Didier Kassabi et du chœur de la synagogue de Bordeaux, dirigé par Françoise Richard, Mac Taillère au piano. Et ça a été enregistré en 2002 à l'occasion d'un concert mémorable pour les 120 ans de la synagogue.
Oh,
Mizmor Le David, le psaume 29, sur une musique d'Émile Jonas, interprétée là par le soliste Didier Cassabier, le chœur de la synagogue de Bordeaux. Extrait donc du CD Musique de la synagogue de Bordeaux, le premier volume de la collection Patrimoine musicaux des Juifs de France, qui est donc produit et distribué par les éditions de l'Institut européen des musiques juives. Il s'agissait d'un concert en direct, donc c'est une captation. Alors, Jacobo Kaufmann, qui était Émile Jonas? Est-ce que vous pourriez nous parler tout simplement de sa formation musicale, où est-ce qu'il est né? Est-ce qu'il venait d'Allemagne lui aussi comme Offenbach?
Non, lui, il venait probablement, il était né en France, mais ses parents, son père c'était Simon Jonas, sa mère Jeannette Paul. Il est né, je crois, à Paris. Il est allé au conservatoire ici. Il a reçu des prix. Il a obtenu le deuxième prix de Rome aussi, de l'Institut.
Ce qui n'était pas rien, parce que, en plus, à l'année où il a obtenu ce second Grand Prix de Rome, je crois qu'il n'y a pas eu de premier prix qui a été décerné. Donc, c'était quand même lui qui arrivait en tête, même s'il a eu le deuxième.
Je crois que vous avez raison. Ouais. Oui, il s'agit justement de ça. Il était déjà un très bon étudiant au conservatoire. Il était très respecté comme jeune. Et la chose plus intéressante pour moi, au temps des recherches, était qu'il était un très grand ami de Jacques Offenbach. Jacques Offenbach lui a donné le plateau pour certains de ses opéras aussi, à un âge très jeune déjà, et même a composé un peu de musique avec lui.
Donc une collaboration entre Jacques Offenbach et Émile Jonas.
Oui, mais naturellement, il venait d'une éducation un peu différente du point de vue juif, parce qu'il a appris beaucoup de la musique des Anoussim, de convertis par force de Portugal et de l'Espagne, qu'ils ont pris leur musique à Bordeaux et à Bayonne.
Alors ça, justement, on va en parler, parce que Émile Jonas, il a eu un rôle très important, comme vous le dites, au sein de cette communauté qu'on appelle parfois la communauté portugaise de Paris. Il a contribué notamment au rayonnement de ses traditions musicales dès 1854. Il n'avait que 27 ans, donc il était tout jeune.
Mais il s'est rendu compte qu'il n'existait pas de documentation. Presque il ne savait pas où trouver ça. Il a pris tout ce que sa mémoire lui donnait comme matériel, et il a sorti ces deux livres, des recueils de prières, justement pour les conserver.
pour les conserver. Donc, il faut juste rappeler que cette synagogue, cette communauté portugaise avait sa propre synagogue, un peu au grand dépit d'ailleurs du consistoire de l'époque qui espérait rassembler toutes les traditions dans un rite français unique, les Ashkénazes comme les Portugaises, et ils n'ont pas vu ça d'un très bon œil quand les Portugais ont décidé d'avoir leur propre synagogue rue Lamartine en 1854.
Oui, mais il y avait des conflits avec le consistoire et naturellement aux conflits budgétaires aussi.
Tout à fait. Et alors cette synagogue rue Lamartine, 1854, après a été, je dirais pas transférée, mais disons que elle s'est déplacée rue Buffour en 1877. Et cette synagogue de la rue Buffour existe toujours et est toujours porteuse de ce rite portugais. Alors vous avez parlé de deux recueils, effectivement. Enfin, il a publié donc en 1854 un premier recueil, je crois, qui s'intitule Recueil de chants hébraïques à l'usage des temples du rite portugais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 39 mélodies, mais il y en avait quand même 25 ou 24
de sa propre composition. Oui, il avait écrit aussi ça sous l'influence de ce qu'il avait entendu.
Et c'est assez intéressant parce que j'ai moi-même beaucoup travaillé sur les traditions portugaises et c'est toujours très compliqué de savoir qu'est-ce qui parfois est traditionnel, qu'est-ce qui est composé et tout. Et dans le recueil de Jonas, il a quand même eu l'honnêteté à chaque fois que c'est un air traditionnel, il met le mot air traditionnel.
Vous savez, il a eu des problèmes avec toutes les traditions des Juifs qui sont enfouies de Portugal et de l'Espagne parce que il y avait des générations qui ne connaissaient pas le passé. Ils sont comme en Amsterdam et Hambourg aussi. Ils sont arrivés 100 ans, 150 années après l'expulsion. Et alors probablement, ils ne se souvenaient pas très bien de ce qu'ils avaient écouté dans la synagogue.
Oui, et puis les traditions musicales évoluent toujours pour toutes les traditions. Oui. Effectivement, de par cette histoire mouvementée de l'expulsion, de réappropriation, c'est réapprendre les rites. Oui. C'est une histoire un peu compliquée, celle du rite portugais. Alors, je vous propose d'écouter deux autres pièces d'Émile Jonas, et vous verrez qu'il écrit fort bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je suis sûr que beaucoup de nos auditrices et auditeurs connaissent les mélodies parce que c'est encore chanté de nos jours dans les synagogues. Il s'agit d'un Matovu, donc la prière bien connue, et puis suivi d'un Tehilat que l'on chante aujourd'hui d'Émile Jonas, écrit pour chœur à trois voix avec accompagnement ici à l'orgue. On les chante, comme je le disais encore aujourd'hui, dans les synagogues, mais comme il n'y a plus beaucoup de chœurs dans les synagogues, en tout cas dans les plus petites synagogues, le chœur n'intervient pas tout le temps, même dans les grandes, on chante généralement juste la mélodie, mais on ne sait pas qu'il y avait un accompagnement et on n'en connaît pas l'auteur. Et bien ici, quand vous allez entendre, vous allez vous dire « Mais oui, bien sûr, je connais, et c'est bien sûr Émile Jonas, Matovu et Tehilat ».
Thank you.
entendre successivement Matovu, puis Teilat, composé par Emil Jonas, donc avec accompagnement à l'orgue, la direction d'Hector Sabot et l'ensemble Latruite Lyrique. Et ceci provient donc du CD Jacques Offenbach et ses proches de la synagogue à l'opéra, CD qui vient de paraître aux éditions de l'IEMJ. J'en redonnerai la référence à la fin de cette émission, qui comporte bien sûr des œuvres d'Émile Jonas, mais aussi de Jacques Offenbach, de son père Isaac, de Jules Erlanger, dont on va parler tout à l'heure, et bien d'autres compositeurs encore, puisque ce CD nous permet de faire le lien finalement entre les musiques liturgiques, les musiques juives de l'époque et les musiques d'opéra qui étaient chantées. Et beaucoup de ces compositeurs sont donc passés de la scène, de l'estrade de la synagogue à la scène de l'opéra avec des, comme on le voit avec Jonas, non seulement des allées mais aussi des retours, puisque Jonas a écrit, comme vous l'avez dit, Jacobo Kaufmann, des opéras bouffes avec Jacques Offenbach, mais il a aussi composé ses œuvres liturgiques.
Oui, mais pour l'opéra, il a écrit beaucoup, et à son temps-là, il était très connu parce qu'on le jouait au Bouffe parisien, mais aussi ailleurs et à l'étranger aussi, à d'autres pays. Il avait beaucoup de succès à son temps-là, et Jacques Offenbach le respectait. Il était son mentor aussi, il le protégeait beaucoup. Ils étaient très amis avec, mais c'était une époque dont il avait beaucoup de compositeurs très connus, et lui-même se trouvait dans la même compagnie. C'est pas comme aujourd'hui qu'on a presque oublié qui était Émile Jonas.
Le temps est impitoyable.
Oui, mais pas seulement le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprendra jamais dans le théâtre et dans la musique. Mais il ne mérite pas d'être oublié, parce qu'il a écrit beaucoup de choses très très jolies.
On l'entend là dans ses œuvres liturgiques. Et alors, j'aimerais vous poser un peu la même question que je vous ai posée le mois dernier. Quand j'entends ça, j'entends une œuvre très occidentale qui ne diffère pas beaucoup de chœurs qu'on pourrait chanter dans des églises, dans des temples ou même à l'opéra. Est-ce que Jonas a un style particulier? Qu'est-ce qu'il différencie de Offenbach, même dans ses opéras bouffes? Ou est-ce qu'ils sont tellement proches l'un et l'autre qu'on ne peut pas les reconnaître?
Bon, naturellement, il était influencé par le rite portugais qu'il connaissait mieux que le rite ashkénaze. Il a aussi été influencé par Alevi, et qui était son protecteur aussi, qui lui a enseigné beaucoup de choses. Il a entendu sa musique. Et la musique, à son temps-là, on a essayé de le faire moderne à son temps.
Mm-hmm. Alors, Froment à Lévy, on lui a consacré une émission en présence de Hector Sabot, et on a longuement parlé de Froment à Lévy, qui a eu une importance assez considérable, non seulement pour les œuvres musicales juives de cette époque-là, puisque Lévy a écrit lui-même des compositions liturgiques,
mais aussi
des opéras. C'était le professeur il a été professeur de composition de Offenbach.
Avec l'amitié, c'était une anecdote, n'est-ce pas, Jacques Offenbach lui est connu à l'entrée de l'opéra quand on donnait la juive. Il voulait l'entendre et n'avait pas d'argent, et Alevi lui a demandé qu'est-ce qu'il veut faire, s'il veut la voir ou l'écouter. Il a dit l'écouter, et Alevi l'a pris dans l'opéra, mais après il lui a appris beaucoup de choses de composition.
Et donc, il lui a donné des cours de composition. Il a donné des cours de composition aussi à Émile Jonas.
Enfin, aux deux, oui.
Froment à Lévy a eu un rôle très important. Il faut dire qu'il était donc professeur de composition au Conservatoire de Paris, qui était un poste très haut placé, et qu'il a accueilli dans sa classe de nombreux compositeurs. Et parmi eux, ces compositeurs juifs dont nous parlons, Jacques Offenbach, Émile Jonas et d'autres encore. Alors, moi, juste une petite remarque. Ce qui me frappe, c'est quand on entend ça, on entend l'orgue. Et effectivement, dans les partitions d'Émile Jonas, on voit que c'est écrit avec un accompagnement d'orgue ou de harpe. Mais l'orgue était déjà présent à la synagogue, même si officiellement, je crois qu'il était reconnu par le grand rabbin de France 4 années plus tard, en 1858 officiellement. Mais en 1852... à la synagogue Notre-Dame de Nazareth, puis en 1854 à celle de la rue Lamartine, quand on a construit ces deux synagogues, on a intégré des orgues. Mais il faudra attendre quelques années encore pour que ce soit véritablement admis, notamment avec l'inauguration de la grande synagogue de la Victoire en 1874, où là, alors on aura un orgue absolument gigantesque et des cérémonies où l'orgue a toute sa place. Alors, justement, puisqu'on parle de cette cérémonie d'inauguration de la rue de la Victoire, qui a eu lieu le 9 septembre 1874... il y a eu plusieurs œuvres qui ont été jouées et il y a donc deux prières de Emmy Jonas qui
le
sont...
Vaye Ibn Soa.
Absolument, le Vaye Ibn Soa et le psaume 130, mais le Vaye Ibn Soa. Et je vous propose de l'écouter tout de suite dans la, l'interprétation de Adolf Fatia, le chanteur bien connu de la Grande Synagogue de la Victoire, qui aujourd'hui coule une retraite bien méritée en Israël, mais toujours dans l'enregistrement donc du chœur de la synagogue de Bordeaux, donné en 2002 et donc publié dans le CD Musique de la synagogue de Bordeaux. Vaye Ibn Soa par Adolf Fatia et le chœur de la synagogue de Bordeaux. La prière Vaye Ibn Soa de Émile Jonas, interprétée ici par Adolf Fatia, le chœur de la synagogue de Bordeaux. Et cette prière donc, qui fut chantée lors de l'inauguration du Temple de la Victoire le 9 septembre 1874, aux côtés d'autres auteurs très intéressants aussi. Alors, Jacobo Kaufmann, vous avez dit qu'en parallèle de cette carrière liturgique, Émile Jonas a été un compositeur prolifique, auteur d'une vingtaine d'opéras bouffes, dont certains ont connu un vif succès. Alors pourriez-vous nous donner le nom de quelques-uns de ces opéras et nous expliquer en quoi il y a eu une collaboration entre Jacques Offenbach et Émile Jonas? Comment s'opérait cette collaboration?
Bon, il a écrit plusieurs choses, comme vous avez dit, une vingtaine d'œuvres pour le plateau. La parade, par exemple, Le Roi Bois, et Le Manoir de la Reine Ardière, Avant la Noce, Désiré, Sire de Champigny, mais surtout Le Petit Prodige. Le Petit Prodige avait deux morceaux qui avait composé Jacques Offenbach avec lui.
Ah, qu'ils avaient composé ensemble, Jacques Offenbach et Émile
Bon,
Jonas.
Jacques Offenbach l'a composé, il lui a donné ça.
Et il l'a intégré
ça fait
dans
partie
son...
dans Le Petit Prodige. Mais vous savez, il y a un problème maintenant. On ne peut pas trouver, moi, au moins, je n'ai pas trouvé les partitions d'orchestre de tous ces ouvrages. Il y a seulement un que j'ai trouvé dans la bibliothèque de l'Opéra de Paris. Et c'était Le Canard à trois becs. Le Canard à trois becs, c'est elle était très, très connue et avait beaucoup de succès. Et même, on a fait un dessin dans un
On peut dire
pratiquement un comique où on voit Offenbach, autre compositeur, Émile Jonas, et à son côté un canard avec trois becs. Il était même à côté d'Offenbach. Il a été interprété au Bouffe naturellement, et ça serait un défi de le faire de nouveau, parce qu'ici on a le matériel. Je ne sais pas comment trouver les partitions d'orchestre des autres. Il existe seulement les partitions de chant et piano.
Donc les Bouffes, c'est le théâtre des Bouffes parisiens qui a été créé par Offenbach en 1855. Et dans lequel Offenbach a fait jouer non seulement ses propres œuvres.
Il a fait des concours aussi, le jeune Bizet aussi.
Bien sûr, non seulement ses propres œuvres, c'est ce que j'allais dire, mais aussi également les œuvres de ses contemporains. Donc il n'était pas il a ouvert à beaucoup, il a permis à beaucoup de compositeurs de se faire connaître, d'être joués d'abord chez lui puis dans toute l'Europe.
Oui.
Et parmi eux, Émile Jonas. Et je vous propose peut-être d'écouter, puisque nous nous intéressons spécifiquement dans cette émission à l'œuvre juive d'Émile Jonas, une cantate de mariage en hébreu d'Émile Jonas pour ténor et baryton solo, chœur de soprano et orgue. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur un rythme de valse lente à trois temps, donc ce mélange aussi de la musique liturgique et en même temps une musique très dansée. Donc on écoute cette cantate de mariage.
Oh,
Une cantate de mariage en hébreu d'Émile Jonas pour ténor et baryton solo, chœur et orgue. Œuvre ô combien opératique qui donne envie de chanter, de danser. Et ça serait formidable si on pouvait la réentendre d'ailleurs dans les synagogues aujourd'hui, tellement c'est beau. On est en train de discuter pendant ce temps-là avec Jacopo Kaufmann, de se disputer presque pour savoir qui était l'auteur de cette œuvre. Je crois que Jacopo Kaufmann, vous me disiez, mais non, c'est pas possible, c'est pas Émile Jonas. Vous pensez que c'est...
Ça, disons diplomatiquement que ça a été influencé sans doute de deux compositeurs au moins. L'un était Jacques Offenbach et l'autre était Donizetti. Et on entend des choses très, très lyriques, très musique de la scène qui ont joué beaucoup à ce temps-là dans le théâtre de Paris.
Alors cette pièce, elle a quand même été, précisons-le, publiée dans le recueil dont on a parlé en 1854, le recueil de chants hébraïques à l'usage des temples de rite portugais, mais à la fin dans les pièces, dans l'appendice, les pièces donc qui sont destinées notamment au mariage, dans lequel le compositeur s'autorise plus de choses, mais il n'y a pas d'indication de nom autre que celle d'Émile Jonas. Donc,
non, après... mais il a écouté des choses dans son temps, beaucoup de choses des autres, de ses amis aussi, et c'était un problème de ne pas se souvenir de choses qui étaient dans les oreilles de tout le monde ce temps-là.
Oh ben on est forcément influencé par la musique de son temps. Et Émile Jonas, c'est intéressant parce que ça montre sa place finalement par rapport à ce qu'il a fait, son travail sur le rite portugais. Il a certes fait un travail de conservation, mais il a en même temps fait un travail un petit peu de modernisation, si je puis dire, parce que dans l'accompagnement et puis dans ce qu'il a rajouté de lui et qui s'est introduit aussi dans la synagogue de l'Armée de Martine, il y a des choses beaucoup plus modernes.
Oui, mais n'oubliez pas qu'il était occupé beaucoup, beaucoup dans le théâtre. Alors, dans le théâtre, on n'entendait pas la musique du rite juif, non seulement portugais, mais aussi ashkénaze. On l'entendait peut-être entre les œuvres des compositeurs, de Jacques Offenbach aussi, on a entendu des morceaux, mais Émile Jonas savait très bien que cette musique sur scène était différente, mais il était influencé. Il a fait beaucoup de musique qui n'était pas seulement religieuse. Il a aussi pour la garde impériale, il a composé de la musique de marche pour les soldats.
Il avait un rôle important. D'ailleurs, je crois qu'il était professeur permanent d'abord d'harmonie de composition au
conservatoire. Des étudiants militaires, oui.
Et puis, il était le directeur de la musique de la garde impériale, qui était quand même un poste important.
Oui, il a beaucoup composé des fanfares aussi, beaucoup, beaucoup pour ces gens-là. Et ça existe aussi. Ces partitions existent, on peut les consulter ici à Paris.
Ça, on peut les consulter à Paris, formidable. Oui. Et alors, je crois qu'il a eu un rôle important en 1867 pour l'organisation de l'exposition universelle.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Vous savez que Hortense Schneider, qui était le grand star du bouffe parisien, pas seulement de bouffe, mais aussi du théâtre de variété.
Avec c'était Offenbach, une cantatrice.
Cantatrice très connue. Avec un renommé, pas seulement comme personne de la scène, mais aussi de sa vie personnelle. On ne va pas développer ça ici. Non. Mais Émile Jonas, quand il a organisé la fête pour l'exposition universelle, il y avait des invités, mais autant Schneider n'était pas invité, mais elle est entrée dans l'exposition, se présentait comme la grande duchesse de Gerolstein.
Qui est la grande duchesse de Gerolstein, rappelons-la, est un opéra très connu de Jacques Offenbach, qu'elle avait interprété. Ça, c'est très amusant. Alors, Émile Jonas, il a contribué donc à l'organisation des parades militaires, notamment pour cette exposition universelle qui a été inaugurée par Napoléon III et par l'impératrice Eugénie. Oui. Et il est membre de plusieurs jurys, et il a organisé le festival de musique de l'exposition. Il connaissait tous les compositeurs de son époque, et il a même obtenu plusieurs médailles. Il a été chevalier puis officier de la Légion d'honneur. Alors vous voyez, c'était quelqu'un d'extrêmement reconnu à son époque, à son temps.
Bien sûr. Et il était aussi dans la société d'auteurs et compositeurs. Il était sept fois, il était entre les grands, avec Gounod et avec de gens très, très importants à son époque-là. Il était très respecté, très, très respecté. Vous savez qu'à cette époque-là, il a écrit des choses un peu influencées déjà par le compositeur plus proche, comme Mendelssohn, Rossini, Meyerbeer aussi. Mm. Vous savez, il a écrit deux pièces, La Victoire, Le Diamant. C'était un homme qui vraiment était très connu à son temps. Je me demande pourquoi on l'a
oublié. Ben ça, c'est une bonne question. Donc, il faut absolument remettre Émile Jonas à l'honneur et le jouer avec la difficulté de retrouver les partitions de musique.
Le chant piano existe.
C'est déjà une chose.
Vous savez qu'à ce temps-là, on a beaucoup volé les partitions d'orchestre. Et il n'existait pas les lois de copyright comme on le connaît maintenant. Beaucoup de choses sont disparues, peut-être sont dans les mains privées.
D'accord. Alors, si vous avez des partitions d'orchestre d'Émile Jonas, pareil, contactez-nous à l'Institut européen des musiques juives et nous, de toute façon, nous les remettrons dans le domaine public. Alors, on va maintenant écouter d'Émile Jonas une autre prière de mariage qui s'appelle Léa Lélim, dont le texte est dû au fameux poète, écrivain et kabbaliste de Padoue, Moshe Chaim Luzzatto, né en 1707 à Padoue, en Italie, et mort en 1746 à Saint-Jean d'Acre. Léa Lélim, chant de mariage, toujours extrait du CD Jacques Offenbach et ses proches. Léa Lélim, un morceau de mariage, un chant de mariage d'Émile Jonas. Alors, Jacobo Kaufmann, lorsqu'on lit votre article qui s'appelle « Émile Jonas, de la synagogue portugaise à la garde impériale en passant par l'opérette », On a vraiment l'impression que la carrière de Jonas s'étiole avec la guerre de 1870, la défaite de Sedan et puis la fin du Second Empire. Comment on peut expliquer ça?
Bon, c'était des temps très difficiles pour tout le monde, mais elle n'avait pas la même quantité de public qu'il avait avant. Mais de toute façon, Émile Jonas a fait produire quelques de ses opéras à Londres et même à Vienne. En 1873-74, il a produit pareille chose, Golchignon, La Bonne Aventure. Et il est retourné au Théâtre de la Renaissance, ici à Paris, en 1883, Le Premier Baiser. Et il a joué au Théâtre de Nouveautés. Et il était encore connu, il travaillait beaucoup pour la scène. Il était toujours respecté, mais jusqu'à la fin de sa vie, en 1905. Il a travaillé tout le temps.
Tout le temps, carrière bien remplie.
Il était une personne très, très occupée, et même comme Jacob Offenbach aussi, qui ne se reposait jamais.
Alors, Jacques Offenbach ne se reposait jamais, mais son œuvre vit toujours. L'œuvre d'Émile Jonas, malheureusement, est oubliée. En tout cas, beaucoup de son œuvre lyrique. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on chante encore ses prières à la synagogue, alors que ce n'est qu'une petite partie, toute petite partie de son œuvre. Mais je voudrais parler d'un autre compositeur qui nous intéresse pour finir cette émission. Il s'agit donc de Jules Erlanger. Alors, Jules Erlanger, pourquoi? Parce que lui aussi a composé des opéras bouffes dans le théâtre de Jacques Offenbach, donc qui fait le lien entre tous ces compositeurs. Lui aussi, comme Jacques Offenbach, a été bercé par les chants de la synagogue, puisqu'il était le fils d'Israël Suskind Erlanger, qui était le rabbin de Wissembourg, où il est né d'ailleurs, dans le Bas-Rhin. Mais il a été à Paris, comme beaucoup de juifs à son époque. Il a été admis au conservatoire de Paris. Il a obtenu des prix en contrepoint et fugue, et écrit plusieurs donc œuvres pour le théâtre de Jacques Offenbach, notamment L'arbre de Robinson, Les dames de cœur volant, La servante à Nicolas. Et puis, il a été très impliqué dans la vie juive. En fait, il est devenu le président du comité belge de l'Alliance jusqu'à sa mort, l'Alliance israélite universelle. Et il a composé plusieurs pièces pour le culte israélite, parmi lesquelles un psaume Alléluia, le psaume 150, le même qu'on a entendu, qui a été joué également durant la cérémonie d'inauguration du Temple de la Rue de la Victoire en 1874, preuve de la reconnaissance de la valeur de ce compositeur, qu'on ne connaît plus du tout, et en fait qu'on a pu faire rejouer encore aujourd'hui, grâce notamment à l'édition de quelques recueils qu'il a fait, donc un recueil de 10 morceaux exécutés dans les synagogues de France et de Belgique, publié en 1891 à Paris par Durlacher, et en 1903, donc 8 ans après sa mort, il y a eu 4 nouveaux recueils d'Erlanger qui ont été publiés à Bruxelles, 3 de musique profane et 1 de musique sacrée. Et dans ce recueil, il y a une Kedusha de Moussaf, absolument somptueuse, grandiose, que je vous propose d'écouter, tout au moins un extrait peut-être, extrait toujours de ce disque CD, de ce CD Jacques Offenbach et ses proches de la synagogue à l'opéra.
Oh, no, 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 no.
La Kedusha de Moussaf de Jules Erlanger pour grand chœur interprété ici par l'ensemble La Truite Eric et les Polyphonies Hébraïques de Strasbourg dirigées par Hector Sabot. Jacobo Kaufmann, on aurait bien continué pendant des heures, mais notre émission se termine maintenant. Merci infiniment pour votre présence dans ce studio.
Merci à vous pour m'avoir accueilli ici.
Ben, je vous en prie, et avec plaisir pour une autre fois. Merci de nous avoir fait découvrir ces œuvres qui sont souvent peu connues, donc d'Isaac et Jacques Offenbach, et aujourd'hui de celle d'Émile Jonas et Jules Erlanger. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver ces magnifiques musiques dans le CD Jacques Offenbach et ses proches en promotion à 10€ hors frais de port jusqu'au 31 décembre 2019 sur le site de l'Institut européen des musiques juives. C'est très facile, iemj.org. Et vous pourrez également réentendre les prières d'Émile Jonas dans les deux premiers CD de la collection Patrimoine musical des Juifs de France, musique de la synagogue de Bordeaux et musique judéo-française des 18e et 19e. Retrouvez cette émission dans la rubrique podcast sur judaïquefm.fr ainsi que sur le site de l'Institut européen des musiques juives dont j'ai déjà donné l'adresse. Au micro Hervé Roten, David à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives. Produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
The sugar.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till